Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage au quotidien pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Richer, le directeur RSE du groupe Casino. Salut. Bonjour. Mathieu, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. En plus, j'ai lu quand même de nombreux engagements du groupe Casino en matière de RSE, parce qu'il n'y a pas que l'écologie, il y a pas mal de choses, et notamment l'agence de notation ESG qui vous a classé premier des entreprises européennes de distribution pour ses engagements en faveur du climat, de la protection de l'environnement, de la politique de ressources humaines et de sa gouvernance d'entreprise. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se raconter ensemble. Donc déjà, comment vas-tu ?
Très bien,
après
merci
ce confinement, etc. Et d'ailleurs, même peut-être, est-ce que le confinement vous a permis de davantage voir des tendances émergentes de consommation sur des produits bio ou pas forcément? Parce que moi, j'ai entendu parler de cet engouement pour le bio suite au confinement et même pendant le confinement.
Oui, tout à fait. Le confinement, effectivement, a confirmé un certain nombre de tendances qu'on a pu voir avant l'arrivée du Covid. Et effectivement, ces tendances se sont renforcées et on compte bien les renforcer dans les prochaines semaines, notamment, évidemment, l'achat de produits locaux, de circuits courts, le bio aussi. Et puis, il y a d'autres tendances qui étaient très présentes avant, qui ont été aussi impactés par le Covid. Je pense notamment aux enjeux, par exemple, sur le bien-être animal, où pendant le Covid, on a évidemment moins parlé. Les clients, les consommateurs étaient très centrés et concernés par le fait d'accéder à leur alimentation d'abord, puis effectivement à une alimentation de proximité, une alimentation locale, une alimentation bio. Et il y a d'autres sujets, par exemple comme le plastique, qui était un sujet très fort avant le Covid, qui pendant le Covid, on l'a bien vu, a été un peu remis en question. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, on ne va pas continuer à travailler sur le plastique, bien au contraire, qu'il faut continuer et relancer ces enjeux. Mais on voit bien qu'en fonction finalement de la situation, les enjeux RSE peuvent aussi évoluer dans la perception consommateur. Et c'est à nous, entreprises, ensuite de reprendre l'ensemble de ces enjeux et de les porter et de continuer à accélérer la transition vers laquelle on est, que ça soit sur le bien-être animal, sur le plastique, sur le vrac, sur le bio, sur les produits locaux. Voilà, toutes ces tendances, elles sont là. Cette pause de deux mois de confinement nous a permis aussi aux uns aux autres de prendre un peu de recul. Je pense qu'il y a un élément très important dans le recul qu'on a pu prendre, c'est l'importance de l'alimentation. Je crois que ça, c'est un fait pour nous majeur. On s'aperçoit qu'en période de crise, qu'est-ce qui compte d'abord ? C'est pouvoir manger, se nourrir, accéder à une alimentation diversifiée, si possible saine, si possible évidemment responsable, et puis évidemment se loger. Ça, ce sont des biens fondamentaux. Et donc, on peut aussi s'attendre à ce que les consommateurs mettent plus encore d'importance qu'hier dans leur alimentation, mais aussi peut-être dans le budget qu'on est prêt à consacrer dans l'alimentation. On a bien vu que on avait tous mis plus de temps, de sens dans notre alimentation, parce qu'on avait du temps aussi pour cuisiner, on avait du temps pour choisir ses produits, on avait du temps pour regarder son frigidaire aussi et regarder ce qu'on a peut-être parfois l'habitude de jeter parce qu'on oublie les dates limites de consommation, parce qu'on fait pas attention, parce que évidemment quand on est pris dans la vie normale d'avant le Covid, on n'avait pas ce temps peut-être pour s'interroger sur son alimentation, regarder sa façon de consommer. Et puis, je pense qu'on en est ressorti voilà, avec un peu plus de recul les uns les autres et que c'est important pour nous, distributeurs, de prendre le temps d'analyser finalement avec ce recul les projets que l'on doit porter dans les prochaines semaines pour aller vers une alimentation qui soit toujours plus saine, plus responsable, mais aussi toujours accessible au plus grand nombre. Et on voit bien que c'est aussi un enjeu très important que tout le monde puisse accéder à cette alimentation et pas qu'une partie de la population.
Dans tout ce que tu me racontes, là, j'ai dégagé quand même trois grands points qui m'intéressent. Tu me parlais du bien-être animal, et notamment, il y a une pétition qui est passée récemment par Hugo Clément. Je sais pas si tu l'as entendu parler, voilà, pour le bien-être animal. Tu me parlais également du plastique et j'ai surtout envie de revenir sur ce point-là. Pourquoi le plastique a-t-il été remis en question?
En fait, ce qu'on a vu, c'est que le plastique a été perçu comme une barrière, une manière de contre le Covid, ce qui évidemment n'a pas été démontré hein, par.
C'est-à-dire qu'il empêcherait de voilà au Covid de passer dans l'aliment.
Voilà, c'est effectivement il y a eu une envie de, enfin il y a eu un réflexe de se dire plutôt que de prendre un produit brut, on va essayer de reprendre des choses avec du packaging parce que le packaging peut protéger, je peux le retirer avant.
Et ça, tu l'as vu du coup en rayon que les fruits et légumes mis en vrac étaient un peu.
Alors on a vu sur certains types de concepts de vrac effectivement des concepts qui marchaient moins bien par rapport à d'habitude. En tout cas, il y a eu ce débat, ce réflexe finalement de protéger le produit qu'on va consommer pour pouvoir le retirer avant de rentrer dans sa maison et puis ensuite de le consommer. Et en tout cas, il y a eu un débat, je crois qu'il a échappé à personne, sur effectivement le plastique et le fait que l'emballage est aussi un élément de protection du produit. Donc ça a été remis en avant, on va dire, avec le Covid, même si effectivement ça n'est pas une frontière ou un moyen de se protéger contre le Covid. Et au contraire, on est persuadé que la tendance va être de revenir aux enjeux du pacte plastique que nous avons signé, c'est-à-dire effectivement continuer à éliminer, à supprimer le plastique,
ou à recycler,
et à développer le concept de vrac.
Ou à utiliser du plastique recyclé.
Et évidemment, à utiliser du plastique recyclé et effectivement changer les emballages. Voilà, donc c'est effectivement un enjeu très important, mais peut-être que le Covid a juste remis en avant pour une partie des consommateurs l'importance de l'emballage comme barrière de protection, ce qu'il est au départ. Hein. L'emballage, on les a pas mis pour créer de l'emballage, on les a mis parce que ça permet de protéger le produit de contamination éventuelle, ça c'est historique, au rôle de l'emballage, mais aussi pour mieux conserver les produits et prolonger finalement leur durée de vie. Et puis on voit bien depuis maintenant 2 ans, 3 ans que il y a une envie générale de sortir des emballages et surtout des emballages plastiques, de les éliminer autant que possible, de les rendre recyclables à 100% pour avoir un monde moins impactant sur la nature et qu'on retrouve moins de plastique dans la nature.
J'ai l'impression que maintenant, l'un des sujets, c'est plus plastique par terre, c'est les masques. Donc, voilà. Je pense qu'à chaque évolution de la société, on doit s'adapter. Et puis, alors, je vais revenir sur le troisième point qui m'intéresse. On parle de local et ça, on l'a vu, cette tendance de manger, mais pas forcément bio, hein, mais local, des produits de saison, parce qu'en même temps aussi, pour la production qui était un peu fragilisé, pas un peu, même beaucoup fragilisé par ce confinement, on devait consommer des produits de saison locaux, etc. Et même pour l'approvisionnement du groupe Casino, ça devait être compliqué. Vous avez dû peut-être revoir aussi vos manières de vous approvisionner, non?
Oui, alors c'est une tendance qu'on a déjà observée depuis longtemps, hein, la volonté de nos clients d'aller vers davantage de produits de saison, de produits locaux. Et effectivement, le Covid a bien remis cet enjeu en avant.
Mais juste quand on parle local, est-ce qu'on va même jusqu'au régional? C'est-à-dire, est-ce que si on est en Bretagne, on va avoir des produits bretons? Est-ce qu'on va essayer vraiment de mettre ça plus proche, en fait, du consommateur, dans la région la plus proche du consommateur?
Oui. Alors effectivement, l'attente, c'est un produit à proximité du lieu où on le consomme. Donc effectivement, le terme local peut être débattu. Est-ce que c'est 100 km, 80, 150 km? Voilà, c'est du circuit court. C'est de retrouver en fait un produit qui a été produit à proximité de mon magasin, dont je peux identifier le producteur, dont je peux finalement quasiment aller rencontrer le producteur si je le veux. On voit bien qu'il y a cette envie-là. Et que c'est une tendance. Après, on voit aussi qu'il y a eu une forte appétence et on a soutenu les producteurs français pendant la période du Covid. On a remis beaucoup plus en avant les produits français, l'agriculture française, et on a vu un fort intérêt de nos clients pour effectivement l'origine France. Et en même temps aussi l'impact économique effectivement de sur le pouvoir d'achat d'acheter du produit le français ou local, en tout cas sur les fruits et légumes.
D'ailleurs, moi j'ai une question, parce que tout le monde ne peut pas s'acheter ces produits-là vu qu'ils sont plus chers. Ils essaient de rémunérer au juste prix les agriculteurs aussi qui les produisent. Je crois qu'il y avait aussi un sujet là-dessus, notamment. Comment on fait quand on a un consommateur qui n'a pas forcément ce pouvoir d'achat pour se procurer ces produits-là? Est-ce qu'il faut du coup miser sur la saisonnalité? Parce que comme il y en a plus, c'est moins cher. Comment est-ce que le groupe Casino peut aider à encourager cette façon de consommer?
C'est effectivement des arbitrages et qui sont faits par nos clients, de faire des choix différents et donc effectivement de mettre un peu plus de pouvoir d'achat sur ces fruits et ces légumes et peut-être de récupérer du pouvoir d'achat par exemple sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On peut, hein, il y a des études qui ont été démontrées, en gérant mieux son frigidaire finalement on gaspille moins, on récupère un peu de pouvoir d'achat. Et après c'est tout le défi aujourd'hui de nos magasins qui est effectivement d'offrir ces produits-là, d'offrir des produits locaux, d'offrir des produits de saison, des produits français qui restent accessibles au plus grand nombre et à tous. Donc c'est toute l'équation qu'on cherche à créer. Et effectivement, quand on parle de cette transition alimentaire, c'est effectivement de réussir à faire cette équation entre les enjeux climatiques, les enjeux économiques et puis les impacts sociaux. Selon effectivement l'enjeu qu'on va prendre en compte, si on regarde que l'aspect finalement impact climatique, ça peut avoir des impacts sociaux ou sur le pouvoir d'achat. Et donc il faut, c'est pour ça qu'on parle de RSE, il faut qu'on arrive à prendre les trois enjeux en compte. Et c'est là où il y a un défi pour nos équipes. Et c'est là où il faut se rendre compte, puisqu'on parle de RSE, qu'aujourd'hui, le défi, il est opérationnel. Il est lorsque je suis directeur marketing, je suis directeur des achats, je suis directeur de magasin, comment j'arrive à concilier l'ensemble des enjeux qui parfois sont contradictoires, et on le voit tous les jours. Il y a beaucoup de décisions qui sont très bien pour l'environnement, mais qui vont avoir un impact social ou sociétal très fort et qui nécessitent un
accompagnement. On est en plein dedans en ce moment, d'ailleurs, sur les lois votées, mais je n'en dirai pas plus, mais oui, c'est vraiment le cas, ça.
Donc, ça vaut pour nos magasins de réussir effectivement à mettre en avant ces offres-là et de permettre à tout le monde d'y avoir accès. Donc, ça, c'est notre défi quotidien, c'est le défi de nos équipes.
Et concernant le gaspillage alimentaire, parce qu'on a reçu Lucille Bache de Too Good To Go, est-ce que, par exemple, il y a d'autres applications comme ça qui luttent contre le gaspillage alimentaire, vous avez mis en place ce type de service pour lutter contre les invendus en magasin.
Tout à fait. Donc, on travaille évidemment avec Too Good To Go,
qui est un peu le référent maintenant.
Qui est un magnifique service qui est proposé. On travaille aussi avec d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire, comme Phoenix.
On a eu Jean Moreau aussi. De toute façon, on retrouve tout le monde. Hein. Finalement, c'est encore un micro-écosystème. Il y a de la place. Hein. Il y a vraiment de la place.
Ce qui est, moi, je trouve surtout très intéressant, c'est que on a justement besoin de ces nouveaux modèles, de ces startups, pour nous aider à résoudre des problématiques qu'on n'arrive pas à résoudre seul. Et là, la loi sur le gaspillage alimentaire, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle a fixé en fait un cadre juridique qui est que finalement tous les magasins de plus de 400 mètres carrés ne doivent pas évidemment jeter. Donc elle a donné un cadre et une stabilité qui a permis à des entreprises, à la fois comme Too Good To Go et comme Phoenix, de se créer, de venir résoudre un problème qu'on avait, qui est qu'on a des magasins en centre-ville de petite taille avec donc des petits volumes à donner dans différents endroits des villes. Et donc c'est très compliqué de collecter des petits volumes dans plusieurs magasins, et souvent les associations traditionnelles, banques alimentaires, ne peuvent pas venir collecter régulièrement dans ces petites structures. Et donc Phoenix, par exemple, s'est créé sur ce modèle-là en disant « mais moi, je vais vous aider à venir collecter dans vos magasins ces invendus pour les redistribuer aux associations ». Et donc, c'est une vraie innovation qu'ils nous ont apportée et qui ont permis de nous aider à réduire fortement le gaspillage alimentaire dans nos magasins, par exemple Franprix. Too Good To Go est apporté une autre solution qui est d'offrir ces paniers surprises que vous pouvez acheter sur l'application. Et là aussi, on a sauvé plus de 1 million de paniers depuis qu'on a déployé Too Good To Go en magasin. Donc, c'est autant de gaspillage alimentaire en moins, c'est autant de CO2 économisé.
C'est que du bonus. En plus, les produits sont consommables. Et justement, il y avait récemment un débat sur le sujet de la DLC, de la DLUO. Parce que forcément, souvent, on nous donne une date approximative de date limite de consommation et de date conseillée de limite de consommation aussi, et les consommateurs sont complètement perdus en fait sur ces emballages. Finalement, on est tous paumés, donc il y a de plus en plus d'applications comme Yuka, etc., qui essayent de nous aider, de nous aiguiller sur la transparence du produit, même en termes de traçabilité, etc. Mais il y a quand même trop de choses, il y a trop d'éléments, et au final on sait plus, on se dit tiens, là c'est fini, je dois acheter mon produit, mais en fait apparemment pas du tout, et il y a des produits qui peuvent qu'on peut encore consommer plusieurs mois après. Et donc ça aussi, pour réduire ce gaspillage alimentaire, est-ce qu'il y a des Il y a des engagements.
Oui, on a signé justement le pacte sur les dates limites de consommation qui est
génial. Et je ne savais même pas. Donc,
voilà. Et effectivement, pour travailler sur cette question, on a d'un côté la date limite de consommation. Donc, c'est à consommer avant le. Et là,
comme les produits, comme la viande notamment, ça, il faut vraiment le jeter. Il faut le dire au consommateur.
Exactement. Si c'est la date. Par contre, vous avez des produits qui sont étiquetés avec une date de durabilité minimale, comme on le dit dans les textes, qui est à consommer de préférence avant le. Et le de préférence veut dire qu'il est conseillé de le consommer avant si vous voulez être sûr de retrouver le goût exact, la texture exacte.
Mais les nutriments si aussi vous, peut-être qui peuvent un peu...
Alors, sur le plus long terme, sans doute, si vous attendez plus longtemps. Mais si vous le consommez après cette date-là, vous ne serez pas malade, vous ne prenez pas de risque. Et donc, vous pouvez dépasser cette date pour consommer ce produit-là. Par contre, il se peut
que le yaourt se transforme en fromage.
Là pour le coup, ça c'est une DLC, mais que sur une boisson, si vous la consommez après la date, vous n'allez pas vous mettre à risque. Et donc effectivement, on travaille avec Too Good To Go et tous les acteurs pour essayer de trouver les phrases, les mots qui sur le packaging vont vous permettre de comprendre tout de suite la différence entre les deux, d'être assuré et donc de ne pas acheter ce produit alors que vous pourriez encore le consommer. Et ça paraît assez évident, mais en fait, on s'aperçoit quand on teste auprès des consommateurs les différentes phrases qu'on peut utiliser, les différents mots, que tout le monde ne comprend pas la même chose, que des gens restent avec des questions, et donc on va expérimenter différentes possibilités pour essayer justement de rendre claire cette information auprès de nos consommateurs. Et je rappelle qui est sur un packaging de quelques centimètres. Donc, on met beaucoup d'informations sur ces packagings et donc, il faut rendre ça le plus clair possible.
Et pareil, il faut aussi rechallenger toutes ces applications et toujours bien expliquer parce que quand il y a des Nutri-Score, etc., ça ne veut pas dire que consommer du chocolat noir à 90% qui est pourtant noté D parce qu'en fait, c'est gras et c'est sucré. On peut, et justement, c'est bon pour la santé et c'est ce que disent les nutritionnistes, d'en consommer un peu. Le tout, c'est d'être raisonnable et de rester raisonnable. Il faut bien lire ce que dit Yuka, c'est que par rapport un régime équilibré, on peut pas, c'est à consommer avec modération. Donc, je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est éduquer, informer, être transparent surtout. Et surtout, expliquer. Ça, c'est aussi ce que l'on demande à tous ces grands groupes, c'est d'expliquer davantage aux consommateurs ce qu'ils vont avoir dans leurs assiettes, en fait. Et je pense que c'est aussi tous les enjeux de la RSE aujourd'hui.
Alors, effectivement, ça, c'est la grande tendance qu'on voit depuis maintenant 7-8 ans, qui est de donner accès aux consommateurs à une information qui soit claire, qui soit robuste, qui soit bien validée par les experts.
Après, il va aller se renseigner sinon partout.
Et donc, faut vraiment qu'il soit rassuré par l'information qu'on lui donne et puis qu'il soit simple à comprendre. L'accélération de la transformation du modèle de consommation peut se faire justement si on arrive à lui donner cette information qui lui permet ensuite d'orienter son acte d'achat. Comme nos clients aujourd'hui ont tous des smartphones dans leur poche, effectivement, on est en train de voir une accélération de l'utilisation de l'information dans son acte d'achat. Typiquement, c'est le modèle évidemment Yuka, mais aussi Open Food Fact. Je prends mon téléphone, je scanne le produit, je récupère une information. Si je suis intéressé par la nutrition, j'ai le score Nutri-Score qui me permet de voir comment il se situe. Je peux avoir le score Nova, qui est une autre information qui est donnée par Open Food Fact. On espère demain avoir l'information sur le bien-être animal et comme le demande la convention citoyenne, demain un carbon score ou un éco score qui vous donnera aussi l'information sur l'impact environnemental de votre produit. Après,
et
à nos clients
pas que
de faire les arbitrages.
Oui, c'est ça. Parce qu'à la fin, on aura 36 scores, on se dira, mais en fait, je mange quoi? Alors là, en fait, on va devenir tous matheux. Alors entre A plus B plus D plus C, finalement, je suis sur un A moins. Mais oui. En fait, je pense que c'est ça. C'est vraiment éduquer le consommateur, qui est devenu quand même un consommateur, qui est complètement acteur de son assiette. Alors qu'avant, finalement, il mangeait un peu ce qui lui était... ce qui lui était préparé ou ce qu'il avait dans son frigo, clairement. Et est-ce que en matière aussi de tendance, on voit quand même qu'il y a davantage de demandes sur du flexi. On n'est pas devenu vegan ni veggie complètement. On limite la consommation de viande, de poisson, etc. Donc, tu me parlais du bien-être animal. Donc, maintenant, en plus, il va y avoir aussi la traçabilité là-dessus. Mais est-ce que, du coup, il y a eu un réassort des propositions en matière de plats plutôt vegan, veggie, etc. pour tous les consommateurs?
Oui, bien sûr. En fait, un des grands enjeux que nous avons, c'est d'accompagner nos clients demain vers... une alimentation qui permet de répondre aux enjeux climatiques. Et donc, ça nécessite de réorienter finalement l'impact de son assiette au quotidien. Comme vous le savez, l'alimentation, c'est à peu près, si on prend tous les impacts de vraiment du champ jusqu'à l'utilisation du produit, c'est à peu près 20% des émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre qui sont émis par l'alimentation dans le monde. Donc on voit bien en fait qu'en consommant différemment, en mangeant différemment, on peut agir pour le climat. On l'avait tous compris il y a longtemps sur sa voiture, que selon le type de véhicule que j'utilise ou de mode de transport, j'ai un impact sur le climat. Et depuis maintenant 7-8 ans, les consommateurs ont compris que bah, aussi en agissant sur son assiette, je peux agir sur le climat. Et donc tout l'enjeu, c'est de réorienter un peu cette assiette avec un peu moins de protéines animales et plus de protéines végétales. Et donc il faut accompagner ce changement. Et donc de plus en plus, effectivement, apparaissent dans nos magasins des offres de produits végétaux, de concepts de vrac pour des légumineuses.
Même élaborés par Casino, donc pas donc
qui,
par la
qui
marque
sont sur
Casino,
nos marques propres, ouais, exactement, voilà, qui fait, est effectivement toujours le un peu le fer de lance au départ de notre stratégie. On parlait du Nutri-Score, par exemple, la marque Casino s'est engagée à mettre le Nutri-Score sur plus de 4000 références.
J'ai vu ça
on
aussi.
On va retravailler 1000 recettes derrière aussi sur le Nutri-Score. Donc à chaque fois, effectivement, on utilise nos marques propres comme un peu fer de lance de nos politiques. Et évidemment, sur le végétal, on a aussi une marque Casino Végétal. On a d'autres marques dans nos magasins qui permettent effectivement de promouvoir ces produits et de permettre à ceux qui souhaitent aller vers plus de flexitarisme, qui est une tendance effectivement qu'on observe, c'est-à-dire de manger de la viande de meilleure qualité, peut-être un peu moins, voilà, de pouvoir le faire.
Ouais, voilà.
Et encore une fois, nous, notre rôle, je crois que c'est le mot qui est utilisé en ce moment, mais qu'on utilise depuis longtemps, notre rôle, c'est d'accélérer ces tendances dès lors qu'effectivement, elles vont dans le sens effectivement d'un monde qui pourra demain rester sous 2 degrés, et donc les enjeux climatiques sont importants, mais aussi qui permettent à toutes nos filières de se développer et de continuer à grandir avec nous et nos clients.
Est-ce qu'on a oublié d'aborder des points ensemble que tu aurais aimé partager avec moi et nos auditeurs et mes auditeurs?
On est très sur les sujets, effectivement, climat, produits. Il y a le sujet ressources humaines qui est
qui m'intéresse aujourd'hui,
surtout dans le contexte
actuel.
Sur un petit mot, enfin, en tout cas sur les politiques
discrimination
et diversité.
Justement, c'est bien de le remettre. On a parlé beaucoup d'alimentation, d'écologie, mais c'est important.
Si on peut en dire un petit mot,
bien sûr,
ça avec plaisir. Ouais.
Je te laisse m'expliquer.
Effectivement, les enjeux RSE pour nous, donc ils sont multiples. Hein. On a parlé des enjeux du climat. On a parlé des enjeux effectivement de l'offre produit, qui est une manière à la fois de répondre aux enjeux climat, mais aussi aux attentes de la société. Et puis il y a évidemment un enjeu qui est très important, qui est l'enjeu ressources humaines, parce qu'en fait nous employons en France à peu près 70 000 personnes. Donc
puisqu'il faut aussi redire que sous le groupe Casino, il y a quand même plusieurs
exactement, on est plusieurs enseignes qui sont
tu peux même les
donc on a effectivement plusieurs enseignes qui sont Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia et aussi Cdiscount. Et donc on emploie à peu près 70 000 personnes en France, 200 000 personnes dans le monde. Donc l'enjeu ressources humaines, l'enjeu RH est pour nous très important puisqu'on est un employeur important en France dans tous les territoires et on est très engagé depuis 20 ans dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et c'est vrai que quand je suis arrivé il y a 10 ans sur ce poste, c'était des enjeux de société qui étaient très présent dans le débat de société. Alors, plutôt dans les années 2005 à 2010, on a beaucoup parlé de l'égalité des chances, des quartiers, des enjeux de discrimination liés à l'origine, etc. Qui a un engagement en fait historique au groupe, qui est porté...
Qui refont émergence énormément.
Et qui sont en train de revenir. Et c'est pour ça que je trouve ça important de continuer à en parler et à montrer ce que des entreprises comme les nôtres faisons. Donc, effectivement, on a mis en place des politiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche, pour recruter dans les quartiers. On a recruté plus de 3000 personnes dans les quartiers l'année dernière. On met en place des testings régulièrement pour essayer de s'assurer justement qu'il n'y ait pas de pratiques discriminatoires. On met en place des programmes de formation. Par exemple, on a des guides sur lutter contre les discriminations liées à l'apparence physique, liées à l'origine, liées aux faits religieux, liées à l'orientation sexuelle. Et ces enjeux d'égalité des chances, ils sont pour nous indispensables et ils doivent être vraiment pris en compte par les entreprises parce que les entreprises doivent être des sociétés inclusives et donc doivent permettre à chacun, quel que soit son âge, son sexe, sa couleur de peau, son origine, de pouvoir travailler dans ces entreprises, s'épanouir et grandir avec l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est des sujets historiquement très importants pour nous. Et puis après, quand on parle de RSE, quand on parle justement de ces changements qu'il faut mettre en œuvre, comme je le disais tout à l'heure, c'est un enjeu aujourd'hui qui est d'abord un enjeu humain au sein des directions opérationnelles. Moi, je suis très admiratif de nos équipes qui, au quotidien, doivent faire ces changements. Parce que ça paraît très simple quand on parle comme ça de dire « je vais supprimer un packaging, je vais développer un concept de vrac ». Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est effectivement, c'est d'abord des équipes qui ont une habitude de travailler d'une certaine façon, qui fonctionne, dont on sait prévoir les résultats, et qui se disent à un moment « bon, ben, je vais changer de modèle, je vais prendre ces risques, je vais innover ». Et donc, quand on innove, eh bien, il faut accepter qu'on ait des échecs. Il faut accepter qu'on se trompe, il faut accepter qu'on fasse des erreurs, parce que sinon, vous ne faites pas de l'innovation. L'innovation ne s'est jamais faite avec un 100% de succès. Et donc, il est important aussi de retravailler sur les problématiques de management pour autoriser les équipes à ce droit à l'erreur qui n'est pas un droit particulièrement promu, on va dire, dans le système français et encore moins dans le système scolaire. Donc, on est plutôt éduqué en disant « il ne faut pas faire d'erreur, faire une erreur, c'est pas bien ». Alors qu'en fait, aujourd'hui, il faut accepter qu'on va tester des innovations, que ça soit sur le transport, que ça soit sur une offre produit, que ça soit sur un concept de magasin, et que l'innovation induit des échecs. Pas que, évidemment, il ne faut pas que ce soit que des échecs, mais que ça passe par là. Donc moi, je suis très admiratif, effectivement, aujourd'hui, des équipes qui se disent « bon, ben moi, ce packaging, je vais prendre un exemple, on avait un concombre qui était emballé de plastique, effectivement. »
Je connais bien ce concombre-là. Hein.
Il a fait du bruit, on supprime le plastique, on met une étiquette. Conséquence, augmentation du gaspillage alimentaire parce qu'il est moins bien protégé, donc ça augmente un peu, il y avait plus de concombres abîmés, donc il faut traiter ça. Voilà. Ben ça, c'est la réalité.
Toujours pas de solution ? On a remis de plastique ?
Si, alors après, ben ça effectivement nécessite de regarder aussi les quantités qu'on commande, de réadapter un peu la chaîne d'appro pour éviter tout cela. Mais ce que je veux illustrer, c'est que dès qu'on va innover pour trouver de nouvelles solutions plus responsables ou qui sont RSE, effectivement, il faut tester des choses, ce qu'on a fait avec Too Good To Go, ce qu'on a fait avec Phoenix, ce qu'on a fait avec plein de start-up, et il faut accepter qu'il puisse y avoir
C'est peut-être au début un échec en termes de consommation, mais à moyen et long terme, ça peut aussi réinstaller un nouveau mode de consommation. Finalement, les gens vont se réhabituer à cette nouvelle proposition, ouais, puisqu'il n'y en aura pas d'autres. Et puis, ils iront acheter leur concombre sans plastique, en fait.
Voilà, alors.
Sans le gaspiller.
Là, c'était effectivement, l'enjeu, c'est toujours aussi de proposer des solutions au moment où il y a un écho en face. C'est vrai que c'est c'était le bio, ça existe depuis 30 ans dans les magasins. Il y a eu Monoprix qui nous enseigne, qui a été le premier à faire une marque propre bio. Voilà, à un moment où le bio n'était pas encore très populaire, très développé. Eh bien, il faut qu'on propose cette offre-là. Effectivement, il faut qu'on pose les jalons. Et
exactement,
puis après, la société, grâce au travail de la société civile, des associations, des pouvoirs publics, enfin de tout le monde, les sujets prennent de l'importance. Et puis à un moment, il y a un point de basculement. Ce point de basculement, il s'est fait sur le bio. Il se fait aujourd'hui sur les enjeux du plastique. Il se fait aujourd'hui sur les enjeux du bien-être animal. Il y a 5, 6 ans, 7 ans, dans les études qu'on pouvait faire, c'est pas un sujet qui ressortait de manière majeure dans les préoccupations de nos consommateurs et de nos clients. Aujourd'hui, ça l'est, sans aucun doute. C'est une priorité très importante. Et donc, nous, notre rôle après, c'est proposer cette offre, puis après d'accélérer pour permettre à ces tendances, dès lors qu'elles sont positives, de se déployer le plus rapidement possible et puis effectivement de faire cette transition. Et donc, pour revenir sur l'aspect RH, il y a un enjeu RH qui est très fort, donc sur la diversité, mais aussi sur le management. Et on a développé un gros programme depuis 5 ans de management bienveillant qui, justement, est un management qui repose sur la volonté de développer la motivation des équipes pour réduire le stress et de travailler sur les leviers de motivation. Et dans les leviers de motivation qu'on promeut, vous avez notamment le droit à l'autonomie, le fait de pouvoir reconnaître ses erreurs, de pouvoir engager un certain nombre de pratiques managériales qui vont renforcer la motivation pour réduire le stress. Et donc, quand on parle de RSE, pour moi, c'est aussi et surtout peut-être un sujet de transformation managériale pour permettre à toutes ces innovations de se mettre en place et de se développer dans nos magasins.
Et puis, de toute façon, le management bienveillant est toujours efficace, vu que si on est moins stressé et plus motivé, on est plus efficace. Donc,
exactement.
Forcément,
c'est aussi un objet.
C'est aussi un levier plutôt intéressant. Mais écoute, je te remercie, c'est très riche, il y a énormément de choses et je pense que toutes ces initiatives vont pas tomber dans l'oreille de sourd parce que ça va encourager. Et moi, je tiens aussi à préciser aux consommateurs de continuer à acheter les produits bio non emballés de plastique parce que, justement, c'est en installant ce mode de consommation qu'on va aider aussi les retailers à nous proposer ce type de produits, puisque c'est nous les consommateurs acteurs. Donc voilà.
Mais on voit effectivement que ces tendances sont bien là et on continue à les porter et à les développer dans les prochaines semaines. Donc on n'a pas d'inquiétude que ce sont les bonnes tendances.
Bah, je suis ravie, Mathieu, de t'avoir accueilli dans l'empreinte.
Merci.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Podinstall, Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast, à me proposer aussi des profils très inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir. Et puis, n'oubliez pas, sur Apple Podcast, on peut nous mettre 5 petites étoiles. Ça me ferait vraiment plaisir et ça encouragerait le format à se développer encore plus. Bonne journée à tous.